Bienvenue à vous qui avez décidé de prendre part à ce nouveau voyage de l'esprit. Avant que Willy nous narre une fois de plus l'histoire de l'univers, nous voulions vous annoncer que Poussière d'Étoiles marquera une petite pause estivale dans la diffusion de ses épisodes avant de reprendre en septembre. Cependant, rassurez-vous, il y aura quand même du contenu sur la chaîne tout cet été, car la deuxième petite émission dont Willy vous parlait va enfin voir le jour et démarrer en juillet. Vous retrouverez ainsi Willy tous les 15 jours dans une petite rubrique où il répondra aux questions les plus intéressantes qui lui seront posées. Cette émission sera vouée à continuer par la suite en septembre, en parallèle des épisodes de Poussière d'Étoiles. Ainsi, dès la semaine prochaine, sur tous nos réseaux sociaux, vous pourrez nous envoyer toutes vos plus grandes interrogations en rapport avec la physique pour que Willy puisse y répondre. Alors prenez place et bon voyage pour cet épisode de Poussière d'Étoiles.
Bonjour Maxence, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons poursuivre notre épique voyage dans cette fabuleuse histoire de l'univers. Mais avant tout, je voudrais quand même faire un petit rappel de l'épisode précédent. Alors, je vous rappelle qu'on avait observé, il y a une centaine d'années à peu près, un phénomène éblouissant, extraordinaire, étonnant. C'était l'expansion de l'univers. Après de nombreuses observations faites par le grand astronome physicien Hubble, eh bien, on avait conclu définitivement à ce que l'espace entre les choses était en train de grandir. Et plus les choses étaient loin, plus elles s'éloignaient vite les unes des autres. Alors, si vous voulez vous rappeler un petit peu de tout ça, je vous conseille d'écouter l'épisode précédent. J'étais rentré un peu plus dans les détails de ça. Donc, c'était la première conclusion étonnante. L'univers est en expansion. Je vous rappelle que non, nous ne sommes pas au centre d'une énorme explosion. Finalement, c'était tout simplement le fait que l'espace entre les choses était en train de grandir. Je vous rappelle un petit peu comme un gâteau dans lequel on avait fait un gâteau avec de la levure, avec des raisins secs dedans. Et puis finalement, ça gonflait. Finalement, les raisins secs étaient en train de s'éloigner les uns des autres. Mais en réalité, les raisins secs étaient parfaitement immobiles. C'était la pâte entre les raisins secs qui était en train de grandir. Donc, c'était un peu la même image pour l'espace, pour notre univers, c'est-à-dire que l'espace était en train de gonfler. Et donc, on observait donc les objets éloignés, les galaxies, on les voyait s'éloigner très, très vite. Et plus elles étaient loin, plus elles s'éloignaient très, très vite. Voilà, c'était à partir de cette observation qu'on a finalement déduit d'une façon terriblement logique que si on remonte le film à l'envers, eh bien, puisque l'espace était en train de rétrécir en faisant le chemin inverse, il s'avérait qu'à un moment donné, absolument tout, toute matière et tout rayonnement et tout ce qui existait dans l'univers à ce moment-là, actuellement, eh bien, était concentré dans un point complètement délirant, dans la mesure où ce point n'avait aucun volume, n'avait aucun espace, avait une masse infinie, une énergie infinie, une température infinie. Bon, là, c'était une pathologie et ça voulait plus rien dire parce que pour les mathématiciens, je vous rappelle, l'infini, c'est très sympathique, mais pour les physiciens, l'infini, c'est une catastrophe. On a réussi à un petit peu détourner le problème, c'est-à-dire que le moment zéro, le moment où vraiment tout était concentré en ce point-là, on l'a mis légèrement de côté et on a commencé notre histoire un tout petit peu de temps après ce subtil moment qui peut-être n'existe pas vraiment. Bon, enfin bref. Donc, on avait fait notre voyage à partir de quelques fractions de secondes après ce fameux Big Bang. On a vu que, eh bien, d'un seul coup, l'espace commençait à apparaître avec le temps et les objets commençaient à se condenser en matière. Donc, l'énergie se transformait en matière. On avait parlé d'un problème, c'était en fait l'énergie pure pouvait se transformer en matière et antimatière, mais qui se réannihilait aussitôt. Et si ça avait été le cas, notre univers actuellement ne serait que rayonnement, que lumière. Et comme ce n'est pas le cas, c'est qu'il y avait dû y avoir un tout petit surplus de matière qui a fait parfaitement l'univers. La température était énorme, bref, il n'y avait rien qui pouvait se condenser pour fabriquer des choses complexes. Finalement, c'était étonnamment complexe, mais peut-être extrêmement simple, puisqu'il n'y avait pratiquement rien de complexe. Puis le temps est passé, l'espace, en grandissant, a fait que la température devenait suffisamment basse, en quand même quelques milliards de degrés, pour que les particules commençaient à circuler, mais bon, c'était tellement violent, et on en était un peu à peu près là, 300 000 ans, enfin 300 000 ou 400 000 ans, ou 350 000 ans après cette espèce de temps initial, cet instant zéro hypothétique, eh bien là, l'univers était suffisamment frais, entre guillemets, pour que finalement, les particules présentes, c'est-à-dire les protons, les électrons, les neutrons et quelques autres particules élémentaires, ont commencé à s'assembler pour fabriquer l'élément le plus simple, l'hydrogène, avec un peu plus d'éléments, un tout petit peu plus compliqué, l'hélium, qui était composé de deux protons, deux neutrons, et deux électrons qui tournaient autour tranquillement. Bref, il y avait deux sortes de matières, l'hydrogène et l'hélium, et peut-être quelques isotopes de ces deux matières-là. Bref, l'univers continuait à s'expandre et la température continuait à baisser. Et à ce moment-là, puisque la matière était en train de se former, enfin la matière complexe comme l'hydrogène et l'hélium, eh bien la lumière a pu finalement arrêter de participer à la bagarre générale pour pouvoir se propager plus ou moins librement. Et c'était ce qu'on avait appelé le fond diffus cosmologique. Et cette lumière a pu se propager et on est capable de l'analyser encore puisqu'elle se propage dans l'univers actuellement. Donc voilà, l'univers était tranquillement en train de se former. Ça voulait dire qu'il existait dans l'espace observable de ce moment-là une immense quantité d'hydrogène et un petit peu moins d'hélium, mais hydrogène et hélium, et puis c'était pratiquement tout. Et là, c'était catastrophique. Parce que puisque l'univers grandissait et que la température diminuait, bien, il y avait de moins en moins de possibilités de fabriquer du complexe. Donc essayez d'imaginer, c'est une image, hein, simplement, l'univers était rempli d'une espèce de gaz qui était très chaud, mais un gaz composé d'hydrogène et d'hélium, et puis voilà. Et hélas, si ça s'arrêtait là, eh bien c'était fini. L'univers n'aurait pas pu fabriquer de choses plus complexes et on ne serait pas là pour en parler. C'est donc qu'il s'est passé un événement nouveau. Alors, on va faire un petit retour en arrière, tout petit. On va parler justement, vous savez, toutes ces particules, la lumière et toutes les choses qui étaient dans l'univers primordial, tout ça était en interaction. C'est-à-dire que ça se cognait, ça se repoussait, ça s'attirait. Et au tout début de l'univers, tout début, il n'y avait qu'une seule sorte d'interaction, c'est-à-dire une seule sorte de force. Et peu à peu, la température descendant, ça s'est découplé. Sont apparues, finalement, à partir de la force primordiale, quatre nouvelles forces. À cause de la température descendant, quatre interactions possibles étaient apparues. La première, c'était l'interaction électromagnétique, c'est-à-dire qu'il y avait des objets qui étaient positifs et négatifs qui pouvaient soit s'attirer, soit se repousser. C'était la première force. La première force arrivant, c'est celle qui domine actuellement dans l'univers par rapport à l'assemblage de choses, électromagnétique. Les forces électriques et magnétiques. Et en même temps était apparue une force qu'on appelle la force nucléaire. C'était une force qui était très 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 puissante, mais qui était à très très courte portée. C'est-à-dire qu'elle était capable de faire rapprocher même des choses positives qui auraient dû se repousser. Et grâce à cette force, des noyaux ont pu apparaître. C'est-à-dire que des protons qui étaient positifs pouvaient se coller à d'autres protons pour fabriquer des objets, des atomes un peu plus lourds. C'est ce qui se passe actuellement dans certains cas. Il existe une troisième force, c'est la force électrofaible, mais bon, on ne va pas en parler, elle n'est pas dominante actuellement à grande échelle, à très petite échelle, elle est dominante. Puis une quatrième force est apparue, c'était la force de gravitation. Mais cette force de gravitation, vous la connaissez tous, c'est celle qui fabrique le poids sur Terre, qui fait que deux objets massifs pouvaient s'attirer. Mais cette force était extrêmement faible par rapport aux trois autres forces présentes. Mais cette force était valable que lorsqu'il y avait des très 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 grandes quantités de matière. Donc, revenons un petit peu à après 300 000, 400 000 ans, cet immense nuage d'hydrogène et d'hélium, qui était parfaitement stérile, qui ne pouvait plus interagir particulièrement par les premières forces, mais il y avait une telle quantité de matière immense quantité de matière que la gravitation a pu commencer à apparaître et à faire son œuvre. Alors imaginez un immense nuage, et puis bon, tout ça bougeant dans tous les sens, et puis il existe une théorie qui s'appelle la mécanique des fluides, qui fait que c'est quelque chose que vous avez vu lorsque l'eau circule dans une rivière et que vous êtes au-dessus du pont, et le pont, vous voyez au pied des piles du pont, vous avez l'eau qui circule et ça fait des turbulences. Et bien dans cet immense gaz d'hydrogène et d'hélium qui remplissait l'univers d'une façon plus ou moins homogène, et bien de temps en temps il y avait quelques petites turbulences, ce qui fait que de temps en temps la matière arrivait à tournoyer, puis se condenser, et les forces gravitationnelles entraient en jeu et faisaient amalgamer, faisaient s'effondrer des petits globules de gaz, de ce fameux gaz, de ce gigantesque gaz qui remplissait l'univers. Et ce gaz a commencé à se morceler pour fabriquer des gros amas de ce gaz que l'on a appelé finalement plus tard des galaxies. Et ces gros amas de gaz qui avaient des masses de l'ordre de plusieurs milliards de masses solaires, eh bien, se commençaient à s'effondrer pour fabriquer des petits globules. Donc, imaginez ce grand nuage qui emplissait l'univers, qui commençait à se morceler en très très gros nuages. Eh bien, la turbulence continuait à faire effondrer ces gros nuages pour les morceler eux aussi à leur tour, pour fabriquer des petits globules encore plus petits. Et ces petits globules de gaz commençaient à s'effondrer sur eux-mêmes. Et c'était la naissance de la première génération d'étoiles. Donc, imaginez, prenons un cas, un petit globule d'un plus gros globule de gaz qui s'effondrait sur lui-même, et en s'effondrant sur lui-même, la gravitation faisait s'effondrer ce petit nuage de gaz. Or, ce petit nuage de gaz, qui était composé essentiellement d'hydrogène et d'hélium, commençait à se comprimer à cause de cette gravitation qui faisait s'effondrer ce petit nuage. Étant donné que la pression augmentait, bien évidemment, la température s'est mise à réaugmenter. Rappelez-vous qu'au départ, la température était gigantesque et puis elle s'est effondrée. Donc la température était encore basse, mais localement, sur ces petits globules, d'un seul coup, à cause de la pression due à l'attraction gravitationnelle, à l'effondrement de ce gaz, a fait que la température s'est mise à augmenter. Et en augmentant, elle a fait augmenter la pression de ce gaz. Ce qui fait que d'un seul coup, l'effondrement de ce gaz d'hydrogène et d'hélium était compensé par une sorte de pression qui commençait à équilibrer tranquillement la force de gravitation. Et là, une étoile était née. Pourquoi elle était née? Parce que simplement l'hydrogène et l'hélium qui étaient présents commençaient à fusionner, à devenir de plus en plus proches les uns des autres pour pouvoir se coller grâce à cette fameuse force nucléaire qui faisait que tout ça pouvait se coller de plus en plus près. Et en se collant de plus en plus près, l'hydrogène qui était présent commençait à fusionner avec d'autres atomes d'hydrogène, et quatre atomes d'hydrogène pouvaient fusionner très fort pour fabriquer un atome d'hélium. Et au moment de ce passage, un dégagement d'énergie apparaissait. Et c'était la naissance d'une étoile. Cette énergie était rayonnée, sortait de cette étoile pour pouvoir se rediffuser dans l'espace alentour. Donc voilà ce qui s'est passé dans la première génération d'étoiles, effondrement d'hydrogène et d'hélium pour commencer à dégager de l'énergie. Et un équilibre commençait à se stabiliser, l'étoile se stabilisait, elle dégageait de l'énergie et tout son combustible d'hydrogène se transformait peu à peu tranquillement en hélium. Et donc voilà, c'était la naissance de la première génération d'étoiles. Je vous rappelle que tout ce que je vous raconte, c'est extrêmement vulgarisé, hein, c'est-à-dire que je rentre pas dans les détails techniques, bien évidemment. Voilà, et peu à peu, l'effondrement continuait à être compensé par cette pression. Mais, manque de bol, au bout d'un moment, eh bien, tout l'hydrogène s'étant transformé par fusion en hélium, ben, il y en avait moins. Donc le combustible commençait à devenir absent peu à peu. Et là, l'étoile commençait à vivre, c'est-à-dire que pendant une certaine période, elle transformait son hydrogène en hélium en dégageant de l'énergie, de la lumière et de la chaleur. Mais peu à peu, le combustible disparaissant, eh bien, d'un seul coup, ces deux forces, c'est-à-dire la gravitation et la pression qui compensaient la gravitation, bah, l'équilibre devenait instable et évidemment, la gravitation commençait à l'emporter. Donc l'étoile se re-effondrait à nouveau. Et en s'effondrant, eh bien, il y avait plein de possibilités. Parmi les premières possibilités, c'est que les premières couches commençaient à exploser et à se diffuser à nouveau dans l'espace, étaient éjectées avec une puissance énorme pour réensemencer, disons, l'espace environnant. Et puis, dans cet espace environnant, donc, étaient apparus donc, de nouveaux atomes d'hélium qui se rebaladaient dans d'autres directions, à droite, à gauche. Bon. Et bien, à nouveau, d'autres globules du nuage primordial commençaient à se re-effondrer. C'était une deuxième génération d'étoiles qui apparaissait, la première génération étant finie, la seconde génération apparaissait. Et en apparaissant, eh bien, les atomes d'hydrogène et d'hélium qui étaient présents à nouveau commençaient à refusionner pour refabriquer une nouvelle étoile. C'était dans la deuxième génération, mais cette fois-ci, il y avait un peu plus de bagarre. Et les atomes d'hydrogène, d'hélium qui étaient présents commençaient à fusionner entre eux. L'hélium fusionnait avec d'autres atomes d'hélium pour dégager de l'énergie et pour fabriquer de nouveaux éléments, comme le carbone, comme l'azote, comme etc. Une étoile était une usine à fabriquer des nouveaux éléments. Et peu à peu, donc, dans toutes ces étoiles qui naissaient et qui disparaissaient, et c'était des usines à éléments, elles refabriquaient des nouveaux atomes qui, lors de la nouvelle mort de cette deuxième génération d'étoiles, rediffusaient dans l'espace environnant, enrichissaient l'espace environnant avec de nouveaux atomes, comme le carbone, comme l'azote, comme l'oxygène, comme le fer, comme le magnésium, comme pratiquement tous les atomes existants. Pas tous, jusqu'au fer. Les éléments qui étaient au-delà du fer n'étaient pas encore présents. Ils arrivaient à être présents grâce à une fabuleuse mort d'étoiles que l'on appelait la supernova. C'est-à-dire, rappelez-vous, l'effondrement d'une étoile était plus compensé par la pression due à cet effondrement et qui continuait à s'effondrer, mais avec une telle puissance que ça collait entre eux les atomes de plus en plus lourds pour en fabriquer des atomes de plus en plus lourds encore, comme jusqu'à l'uranium quasiment, comme l'or, le plomb, etc., tout ce qu'on veut, tous les atomes existants dans le tableau périodique des éléments que vous avez sans doute déjà vu tous à l'école. Eh bien, et voilà, les étoiles étaient des fabricants, des usines à atomes. Et ces atomes, bien sûr, lors de la mort de certaines étoiles, comme une étoile normale ou alors une supernova, je vous donne un petit exemple, une supernova, lorsqu'elle explose, elle explose d'une façon extrêmement rapidement à l'échelle astronomique, et lorsqu'on regarde dans une galaxie une étoile, une supernova apparaître, pendant un bref instant, elle envoie autant de lumière et d'énergie que la galaxie entière. Donc l'explosion est faramineuse et d'une violence absolument inouïe. Et cette explosion enrichit, bien sûr, tout l'espace environnant, tout le gaz restant, pour fabriquer une troisième génération d'étoiles. Et lors de cette troisième génération d'étoiles, eh bien, c'était très riche. Il commençait à y avoir de l'hydrogène, bien sûr, de l'hélium, bien sûr, qui était toujours présent, puis enrichi avec d'autres atomes plus lourds, comme le carbone, comme l'azote, comme tous les éléments que j'ai précités. Et ces atomes étant plus lourds, lors de l'effondrement de la troisième génération d'étoiles, il existe un phénomène qui est dû à une loi mathématique qu'on appelle la loi du moment cinétique. C'est-à-dire, c'est un petit peu, vous avez tous déjà vu un patineur tourner sur une patinoire à glace. Eh bien, plus il se condense sur lui-même avec ses bras et avec ses jambes, plus il tourne vite. C'est un peu ce qui s'est passé lors de l'effondrement de ces masses de gaz. Eh bien, cet effondrement fait que le cœur de cet effondrement se met à tourner. Et en tournant, il crée une force qu'on appelle une force centrifuge, c'est-à-dire qui fait éloigner du centre. C'est un peu ce qui se passe lorsque vous êtes sur un manège ou en voiture. Lorsqu'il y a un virage, vous êtes éjecté au-delà de l'axe de rotation. Et les éléments les plus lourds commençaient à se positionner un petit peu sur l'équateur du centre de l'étoile, et ces éléments lourds commençaient à tourner autour du centre de l'étoile naissante qui était en train de dégager et sa chaleur et son énergie. Et puis, ces éléments plus lourds qui étaient tout autour se sont mis à s'amalgamer autour de l'étoile en fabriquant, bien évidemment, vous avez deviné, des planètes. C'est un peu ce qui s'est passé lors de la naissance de notre étoile. L'effondrement du gaz a fabriqué l'étoile, le Soleil, qui était composé d'hydrogène et d'hélium et d'autres éléments comme le fer, le magnésium, tout ce que vous voulez, tous les autres. Mais les éléments les plus lourds étaient éjectés sur le plan équatorial, commençaient à tourner autour de l'étoile Soleil, et peu à peu, à force de rotation et de choc et de choses comme ça, ces petites particules commençaient à s'amalgamer pour fabriquer au bout d'un moment des objets un peu plus lourds, des petits rochers, de la bord de la poussière, puis après des rochers, puis après des gros rochers, mais tout ça, c'était un balai discontinu de chocs et de choses comme ça, et peu à peu, ces rochers commençaient à fabriquer des planètes qui tournaient autour de notre Soleil. Et à la troisième planète, il y avait notre maman à tous, la Terre, qui s'amalgamait pour fabriquer une magnifique sphère avec des tas d'éléments qui étaient à l'intérieur, qui avaient été fabriqués par des débris d'autres étoiles mourantes, qui se sont amalgamés et condensés. Et c'est pour ça que l'on sait que nous sommes présents sur cette planète. Et sur cette planète, les êtres humains, les objets, les choses, les fleurs, les animaux, tout est fait d'éléments qui ont été synthétisés dans des étoiles mortes. Et c'est pour ça qu'on peut dire, comme disait Hubert Reeves et puis d'autres, une image extrêmement jolie, nous sommes faits de poussière d'étoiles. Voilà pour aujourd'hui. L'histoire continuera dans un prochain épisode. Nous allons sans doute faire une petite pause estivale pour aller à la plage. Et puis, nous vous embrassons bien fort et en espérant vous retrouver plus tard.
Ce voyage vous a plu ? Alors n'hésitez pas à partager ce podcast et à en parler autour de vous. Et puis, si ça vous a vraiment plu, laissez une review, un commentaire, ça nous fera à moi et à Willy très très plaisir. En attendant le prochain épisode, vous pouvez aller voir tous les autres podcasts de Ripley Media et vous verrez, on y apprend plein d'autres choses. Vous pouvez aussi suivre Ripley Media sur les réseaux sociaux pour être au courant de l'actualité et de la sortie de chaque émission. On a hâte de vous retrouver prochainement pour un nouvel épisode de Poussière d'étoiles.